Et bonjour et bienvenue dans Intermédiaire en Escapade, le rendez-vous du média indépendant en partenariat avec Radio Escapade. Depuis ses premiers pas, la ligne éditoriale d'Intermédie intègre la Méditerranée dans sa zone de couverture, enrichie par des collaborateurs occasionnels à Madrid, Athènes, Beyrouth, Alger, Gaza ou encore Sète, Montpellier, Marseille, simplement parce que nous sommes des habitants de la Méditerranée qui nous sentons mutuellement concernés par notre environnement commun. Aujourd'hui, la mer Méditerranée est notre invité du jour. Nous évoquerons dans cette émission le rapport MED50 qui envisage un plan d'action pour la Méditerranée au sein du programme des Nations Unies pour l'environnement. Nous irons à Marseille à la rencontre de Pierre-Olivier Costa, directeur du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le MUSEM, pour évoquer les orientations de l'établissement et ses projets d'exposition. Nous mettrons le cap sur Sète pour parler poésie avec Maïté Vallès-Bled, la directrice du Festival de poésie Méditerranée Voix Vive, qui se tient cette année du 18 au 26 juillet. Et on jettera enfin un œil en exclusivité sur le programme des Arts de la Scène en Méditerranée, piloté par le CDN de Montpellier, qui aura lieu du 6 au 11 octobre prochain. Méditerranée, qui es-tu ? Mare Mediterraneum, une mer au milieu des terres, berceau de l'agriculture et de nombreuses civilisations, une mer en danger, une des mers les plus polluées, notamment par la pollution plastique. 600 000 tonnes de déchets plastiques sont déversées dans la Méditerranée chaque année. Phénomène aggravé par le fait que cette mer fermée tend à conserver, à concentrer les pollutions. Première destination touristique au monde, la Méditerranée voit passer 360 millions de touristes par an, dont 26 millions de croisiéristes, soit 27% du tourisme mondial. La Méditerranée est aussi considérée comme la mer la plus surpêchée du monde. Sur le terrain des aires maritimes protégées, de Méditerranée demeure essentiellement côtière, de petite taille, ignorant l'essentiel de la haute mer et de ses zones profondes. Nous avons consacré un dossier d'Intermédimag à cet échec flagrant lié tout autant à l'absence de vision de la volonté politique qu'à la nature fragmentée de la gouvernance maritime dans une mer régionale qui partage plus de 20 pays riverains. Le dérèglement climatique pourrait avoir des effets exacerbés sur la zone biogéographique méditerranéenne qui abrite un grand nombre de points chauds de biodiversité. Il entraîne une augmentation de la température de la surface de la mer. Anticiper les effets du changement climatique sur l'eau, l'agriculture, le tourisme, la pêche, l'énergie, le transport et l'urbanisme et de la santé dans cette zone est une priorité croissante pour les élus et les habitants des régions méditerranéennes. Sur 30 ans, de 1970 à 2000, les populations côtières sont passées de 96 millions d'habitants à 145 millions, soit 51% d'augmentation. Depuis le début de la crise migratoire dans les années 2010, de plus en plus de migrants et réfugiés parviennent en Europe en traversant la Méditerranée. Ces traversées maritimes sur des embarcations de fortune surpeuplées sont bien souvent très périlleuses et ont conduit à la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Nombre d'ONG et de citoyens déplorent l'indifférence de l'Europe face à cette tragédie. Chaque année, l'UE investit des milliards pour la protection de ses frontières externes et seulement quelques centaines de millions à l'accueil des requérants d'asile et réfugiés. Riche d'une histoire complexe et ancienne, la Mède a aujourd'hui affaire à de nouveaux monstres. Platon, Aristote, Augustin, Averroès, Maïmonide se bouchent le nez et baissent les yeux. Moïse, Jésus, Mahomet se détournent. ont-ils définitivement retiré leurs anges ? S'interrogeait Salas Tétier dans l'introduction d'une conférence sur la violence en Méditerranée. Sous la fragmentation de sa surface, la civilisation méditerranéenne n'a jamais cessé d'être animée par le même mouvement de violence. Pour le poète libanais Salas Tétier, le principal débat se situe du côté de l'imaginaire. Là où, par de singuliers détours, on croise les monstres. Sphinx, Minotaure, Hydre, Méduse et autres cyclopes peuplent l'esprit des peuples. Mais s'il s'est toujours trouvé des hommes pour s'en débarrasser, les Méditerranéens sont armés pour la confrontation. Parce qu'ils ont su jadis décomposer les monstres, ils sauront ne pas se laisser atteindre par ceux qui aujourd'hui dominent monstrueusement notre civilisation. Et l'orateur de décrire le nouveau monstre sous un autre jour, celui des machines qui endommagent sérieusement ce qu'il y a d'humain chez l'homme. Comme hier, la mythologie de notre modernité fait peur. Bientôt, l'idole robot en arrivera à nous expatrier dans nos propres maisons et à nous exiler de nos propres seuils. Bref, tout ce qui nous fut méditerranéen va mourir, alertait le poète, qui assumait aussi le poste de délégué du Liban auprès de l'UNESCO. À cette lumière, on réalise combien l'univers mental de chacun serait appauvri s'il venait à lui être retiré tout ce qu'il a su accueillir dans ses rivages, dans des domaines de la création artistique, littéraire et spirituelle. À cet égard, il est frappant de constater comment les tenants du pouvoir négligent cette dimension d'accomplissement, discret dédain de la politique lorsqu'elle croise les civilisations sur son chemin. What you thinking, Chris?
Mais le quartier revit. Les bacs, ils sont trop longs. Qui chaud à cache-co, bon chauffe. Je connais le thème, devine qui la ramène. La faire descendre des Pays-Bas. Iqben fait lire Arenko. Mène, crois-moi pour ces chiffres, on y va. Viens fréquenter les marchands de sable. Si tu veux dodo, j'suis bloqué dans le sale avec le même numéro. C'est pas de ma faute si t'as plus de nouvelles depuis des mois. Gardez vos galères loin de moi. C'est pas de ma faute si t'as plus de nouvelles depuis des mois. Gardez vos galères loin de moi. Hakayette, soit hakayette. Ou la moula, plein de billets verts. J'étais petit et vulgaire. J'ai ramené problème à la messe. Boulette sur trou de boulette. J'gamberge dans ma bulle d'air. Kilométrage illimité. Pieds au plancher, j'accélère. Et ils m'ont pas tendu leurs mains. J'ai pas attendu leur aide. Y'avait personne pour moi. J'roulais dans le sens inverse. Petit, j'me voyais astronaute. Mais j'suis pas resté petit. Donc j'suis pas devenu astronaute. Et j'roule des fusées. Le petit rêve plus d'un petit 50. Le bruit du chiffre t'en le fait bander. Le culot paye, je suis arrivé sans me présenter. Depuis petit dans la caille, je démarre avec un handicap. Les yeux plus gros que le ventre, je fais cracher le pot du handicap. C'est pas de ma faute si t'as plus de nouvelles depuis des mois. Gardez vos galères loin de moi. C'est pas de ma faute si t'as plus de nouvelles depuis des mois. Gardez vos galères loin de moi. Hakayette, soit hakayette. J'étais petit et vulgaire, j'ai ramené problème à la messe. Boulette sur trou de boulette, j'gamberge dans ma bulle d'air. Kilométrage illimité, pieds au plancher, j'accélère. Hakayette, soit hakayette, ou la moula, plein de billets verts. J'étais petit et vulgaire, j'ai ramené problème à la messe. Boulette sur trou de boulette, j'gamberge dans ma bulle d'air. Kilométrage illimité, pieds au plancher, j'accélère.
Français qui vient de remplir samedi le stade Jean Guimier en plein cœur de Nanterre, sa ville d'origine, un concert gratuit, fédérateur et engagé, réservé aux Nantériens et aux Nantériennes, un stade pour un nouveau monde. Le Le plan bleu produit des études destinées aux décideurs et sociétés civiles de tous les pays méditerranéens, et notamment des analyses portant sur les tendances à long terme de la mer et du bassin méditerranéen. Le rapport MED50, qui vient d'être publié dans une dimension prospective, envisage un plan d'action pour la Méditerranée au sein du programme des Nations Unies pour l'environnement, autour de trois objectifs pour la Méditerranée à l'horizon 2050. Anticiper les évolutions des écosystèmes méditerranéens, notamment marins, dans les trois prochaines décennies et déterminer les conditions de sa résilience à long terme. Fournir les éclairages utiles à une transition de la région vers un développement durable indispensable à la protection de ces écosystèmes. Identifier les risques majeurs de crise ou de rupture et prévenir ceux pouvant avoir un impact négatif et déterminant sur les deux objectifs précédents. La démarche est intéressante en ce qu'elle envisage toutes les dimensions du futur considérées dans une perspective systémique. Les pressions directes des activités humaines, mais aussi les dynamiques écologiques, la géopolitique, le contexte économique, les changements culturels ou sociétaux, les modes de gouvernance, les nouvelles technologies, toutes ces transformations qui vont affecter la Méditerranée comme mer et région d'ici 2050 vont se produire dans un environnement déjà exceptionnellement vulnérable, constate le rapport. En effet, la Méditerranée est, après l'Arctique, la région du monde qui se réchauffe le plus vite, 20% de plus qu'ailleurs. Elle est aussi une des régions qui a le plus fort déficit écologique et où se concentre 60% de la population mondiale pauvre en eau. C'est aussi la mer la plus polluée par les plastiques et la plus surexploitée en termes de pêche. Elle représente par ailleurs l'une des 10 plus importantes hotspots de biodiversité au monde. Parmi les nombreuses tendances évoquées dans MED 2050, ce sont celles sur le climat, la démographie et la localisation des activités qui auront les conséquences les plus lourdes pour la mer, l'environnement et le développement durable régional. En résumé, la région va donc être confrontée simultanément aux effets d'un bouleversement des climats beaucoup plus important qu'ailleurs et d'une hausse sensible de sa population au sud, se concentrant massivement dans les grandes villes et sur le littoral. Les recours à l'aquaculture et au dessalement, qui ne sont pas sans impact écologique, impliqueront de faire face à des pressions croissantes sur l'exploitation des ressources maritimes et terrestres, à une transformation structurelle de l'écosystème marin et à une situation de sécheresse critique s'étendant à tous les pays. Toutes les activités vitales et tous les territoires de la région vont être impactés, de l'agriculture à l'énergie, en passant du transport maritime au tourisme, des villes aux campagnes, du littoral à l'intérieur des pays, avec une dépendance alimentaire, économique, mais aussi politique, qui va s'accroître partout. Au-delà de ces tendances lourdes, d'importantes incertitudes demeurent à long terme dans des domaines aussi importants que la géopolitique, les changements culturels et sociaux ou l'économie. Que se passera-t-il par exemple si la sortie hors des énergies fossiles est accélérée ou si des contraintes beaucoup plus fortes s'imposent à certains modes de transport ou au tourisme de masse? Une certitude s'impose cependant, compte tenu de leur grande vulnérabilité au changement d'un contexte qu'ils maîtrisent mal, il faudra que tous les pays et territoires de la région, dans la diversité et l'inégalité de leur situation, puissent se préparer à un monde particulièrement instable, en mettant en œuvre simultanément des stratégies d'anticipation proactives et de résilience. La situation de rupture écologique et sociale dans laquelle nous projettent déjà les tendances à 2050 justifie qu'au-delà des stratégies de résilience et d'anticipation de risques nouveaux, soient imaginées des solutions elles-mêmes en rupture, ce qui explique certains des scénarios qui sont proposés dans le rapport. L'une des originalités de MED50, c'est d'avoir ajouté au travail d'anticipation des consultations de jeunes méditerranéens et de personnalités très diverses sur leur vision du futur de la région et leur perception des enjeux prioritaires. À défaut de pouvoir résumer ici simplement la richesse des constats et propositions faites dans ces entretiens, on peut mentionner que deux attitudes s'expriment face à l'ampleur des défis à venir. Pour les uns, leur complexité impose de se recentrer sur quelques objectifs clairs et peu nombreux, en les faisant mieux connaître et surtout en se donnant une stratégie et des moyens permettant d'obtenir et de contrôler les résultats. Par exemple, la gestion de l'eau et des risques climatiques, les plastiques, les aires maritimes protégées, etc. Tandis que pour d'autres, dont l'un évoque l'image du Titanic, « Corriger le système à la marge ne servirait à rien. Il faut changer de système depuis les modèles économiques et écologiques jusqu'au mode ou échelle d'action. Entre ces deux propositions extrêmes, la consultation fait émerger 8 grands enjeux prioritaires. Donner dès maintenant la priorité à l'adaptation et à la prévention des risques majeurs. Essayer d'éviter les évolutions irréversibles pour la mer et les sols. Anticiper les bouleversements démographiques et territoriaux, notamment par des politiques actives d'aménagement des territoires. Réussir à maîtriser le nexus eau, agriculture, alimentation, énergie, environnement. Mieux valoriser l'espace comme méditerranéen dans le hors de la région. Adapter la gouvernance régionale dans les pays, en commençant par l'application du droit une subsidiarité, je vais y arriver, et l'ouverture aux sociétés civiles. Conduire une transition juste des modèles économiques d'activité par secteur en valorisant des atouts locaux ou méditerranéens spécifiques. Et enfin, faire entrer la Méditerranée dans une société de la connaissance et du numérique intégrant l'environnement et la mer et leur culture. On va écouter Férouz et elle arrive. Si vous perdez Férouz, elle finit toujours par vous retrouver, pour vous parler de ses amours souvent difficiles. Du Liban à Marseille, il n'y a qu'une seule rive. On rejoint la cité phocéenne à la rencontre de Pierre-Olivier Costa, le directeur du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, connu sous le nom de MUSEM, évoque les orientations de l'établissement et ses projets d'exposition. Pierre-Olivier Costa, bonjour, vous êtes le directeur du MUSEM. Vous venez de présenter la saison qui va s'ouvrir. Ce qui est intéressant dans votre projet, vous dites « le musée est un espace politique ». Dans quel sens vous entendez le mot « politique » ?
On l'entend parce qu'on est un musée particulier, on est un musée de société. On est le seul grand musée national de société, on est le seul grand musée national hors région parisienne, et donc ça nous donne une responsabilité particulière. D'abord, il faut coller au territoire, coller à l'actualité, coller au sujet de société. Et donc, on a un rôle d'être un musée, ce qu'on appelle à hauteur d'homme, c'est-à-dire qu'on va être un musée qui va répondre à des questions du quotidien. Donc fatalement, en s'intéressant à la société et à notre territoire, on est dans la politique au bon sens du terme.
Au bon sens du terme, oui. Donc le MUSEM, il faut le rappeler, c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. À quel endroit vous situez l'espace de dialogue entre les civilisations aujourd'hui, dans un moment où on a tendance à se replier compte tenu du contexte ?
C'est exactement ça. C'est-à-dire que la responsabilité du MUSEM, c'est de maintenir le brassage. C'est-à-dire qu'il y a des liens dans ce bassin méditerranéen. Parfois on dit l'autre rive de la Méditerranée, il n'y a qu'une rive en Méditerranée en fait, c'est une mer fermée. Et ce dialogue, il est constant. Et on le voit dans l'art, dans la culture, dans les échanges commerciaux, qu'il y a toujours eu ces échanges. La Méditerranée est un lieu de brassage. C'est le lieu de la migration par excellence. C'est là où il y a le plus d'échanges. Et nous, il faut montrer que ces échanges, ils ont du bon, ils ont construit ce que nous sommes, ils ont construit nos cultures et nos civilisations. Et c'est comme ça qu'on se nourrit, c'est comme ça qu'on s'aère. Et donc notre rôle ici à Marseille, c'est effectivement de dire, ces lieux de brassage, il faut continuer à le montrer, à montrer qu'il y a des résonances. On parlait tout à l'heure de l'exposition « Lire le ciel », l'astronomie, on aura le Vermeer du Louvre, qui est un chef-d'œuvre du musée du Louvre, mais on montre aussi comment les terres persanes ont influencé aujourd'hui nos connaissances sur l'astronomie. Donc on est dans l'Europe et dans la Méditerranée.
Vous évoquez aussi, bon, c'était la saison précédente, une exposition autour des trois monothéistes qui a tourné au niveau international et apparemment elle s'adaptait en fonction des lieux où elle avait lieu.
Oui, on fait tourner les expos comme on le dit, on ne le fait pas vraiment comme les autres musées nationaux, c'est pas dans un but de financement ou de commercial, mais d'essayer de faire rayonner ce que nous faisons. Cette exposition Lieux saints partagés est effectivement sur les lieux saints partagés par les trois religions monothéistes et qui a beaucoup circulé et qui ouvrira dans sa dernière version à Rome au mois d'octobre. À chaque fois, on s'adapte au lieu, c'est-à-dire au pays où on est, mais aussi au lieu. Là, ça sera la Villa Médicis, donc il y a un aspect plus contemporain, donc il y aura des artistes contemporains qu'il n'y avait pas forcément dans les autres étapes. On essaye effectivement de ne pas figer ce que nous proposons, mais de s'adapter au lieu où nous sommes.
Est-ce qu'il y avait une adaptation de l'ordre du politico-religieux ou non ?
Non, le fond, qui est vraiment de montrer à quel point il y a des choses en commun dans ces trois religions qu'on ne met jamais en avant, qu'on a plutôt tendance à cacher pour mettre tout ce qui nous sépare au devant. Nous, on a le discours inverse en disant on va remettre ce que tout le monde a en commun et on va le dire. Et ça, c'est vraiment le fond de l'exposition et ça, il ne bouge pas.
Il y a aussi un rapport entre la recherche et la création qui ne parlent pas forcément les mêmes langages. À ce niveau-là, comment ça se situe ? Ça collabore facilement ? Est-ce qu'il faut travailler de façon spécifique entre les chercheurs et les créateurs ?
On est dans des temps différents. Mais on peut les mêler. C'est-à-dire que notre MUSEM Lab, qui est notre centre de recherche, travaille avec des artistes et des créateurs, travaille avec des savants, évidemment avec des chercheurs, qui dialoguent, mais on est sur un temps plus long. C'est-à-dire qu'on essaye de faire étirer ce temps de la recherche qui puisse intégrer plusieurs étapes de création différentes et de créateurs différents. On travaille, par exemple, aujourd'hui, sur les artistes en exil. Qu'est-ce que ça veut dire d'être artiste, qu'on fuit son pays, qu'on se retrouve dans un pays étranger ? Comment on crée ? Comment on crée différemment ? Et là, on a effectivement sur un panel de plusieurs années d'études, de recherches, pour voir comment, si ça évolue et comment ça évolue.
Alors depuis votre arrivée, vous avez créé le Conseil des publics. Ça, c'est le rapport au local où vous associez des associations de Marseille à la programmation avec une idée de les faire venir davantage au musée.
Mais il y a deux choses. C'est que quand je suis arrivé donc il y a 2 ans et demi, la sociologie du MUCEM ressemblait beaucoup à une sociologie d'un musée parisien. Or, on est sur un territoire très différent. Donc j'avais envie de renouer avec la sociologie du territoire et m'adresser à tous. On a un musée national, il fallait que tout le monde se sente concerné par ce musée. Je sais que les Marseillais, la région est fière d'avoir ce musée, mais il n'y allait pas beaucoup. Donc on a essayé de monter quelque chose d'assez original, qui est un conseil des publics, mais plutôt un conseil des non-publics, puisqu'on a réuni 20 personnalités qui représentent tous les publics qui ne viennent pas au MUCEM. Et on leur a dit, pourquoi vous venez pas? Vous nous manquez. C'était le message. Et d'ailleurs, ils sont tous venus au conseil. Il n'y en a pas un qui a dit, on vient pas, mais vous nous intéressez pas. Et depuis, ben, les choses ont évolué. J'ai pris l'exemple de dimanche dernier avec les supporters de l'OM, qui ont venu passer la journée ici, avec qui on travaille aujourd'hui quasiment au quotidien. C'était ces supporters ne venaient pas il y a 2 ans au MUCEM. Aujourd'hui, c'est leur musée. Et on en est très content.
Mais concrètement, les supporters de l'OM, ça se passe comment quand vous dites on travaille au quotidien?
Il y a des échanges. On leur a proposé, d'abord, il y a eu une première étape qui était qu'ils avaient réalisé le plus grand tifo d'Europe le 8 mai pour l'arrivée de la flamme olympique sur le port de Marseille. Ils avaient entouré le MUCEM de ce tifo exceptionnel. Évidemment, on avait travaillé ensemble sur cet événement. Et puis on a fait rentrer ce tifo dans l'exposition permanente Méditerranée. C'est la première fois qu'un tifo de supporters rentre dans une exposition dans un musée national. Et puis on était encore hier avec eux. Et puis il y a des échanges d'équipes. C'est-à-dire maintenant les équipes du MUCEM vont aussi au stade et eux viennent au MUCEM. Et on a encore beaucoup de projets avec eux, comme cette fête du foot qui avait lieu dimanche.
Peut-être un petit mot pour conclure sur les 3 prochaines expositions que vous proposez. Vous parliez de l'exposition sur l'astronomie. On a aussi Clément Cogitor.
Clément Cogitor, qui est un des plus grands artistes contemporains. On a en ce moment Laure Prouveau, son équivalent un peu féminin, mais qui est une grande figure de l'art contemporain français. Clément Cogitor nous propose d'explorer une île qui est apparue et qui a disparu en quelques mois au milieu de la Méditerranée. Et qui a venu bouleverser un peu à la fois les hommes et les politiques. Parce que dès qu'une terre émerge, on a envie d'y planter un drapeau, c'est comme ça, c'est humain. Et donc il y avait une lutte géopolitique autour de cette île. Et puis cette idée assez poétique de quelle émotion nous procure le fait de voir arriver quelque chose et de la voir si vite disparaître.
Et puis il y a aussi l'exposition Don Quichotte qui bouscule cette fois notre rapport à la réalité.
Totalement. Don Quichotte, c'est un réel à côté. C'est une interrogation sur ce qu'est la vérité, ce qui ne l'est pas. C'est aussi une interrogation sur la vieillesse, sur la folie, sur la santé mentale, qui est vraiment un prisme très fort que le MUCEM a pris. Et on avait envie de renouer avec ce roman que tout le monde connaît, mais que tout le monde n'a pas forcément lu, ou en tout cas des extraits. C'est un long roman de Cervantes. Mais on voulait insister sur la dimension à la fois folie et à la fois rire. L'exposition s'appelle Histoire de fou, histoire d'en rire. C'est le sous-titre de l'exposition. C'est important aussi pour nous qu'on puisse penser qu'en allant voir une exposition sur un chef-d'œuvre de la littérature, on puisse rire au musée.
Merci beaucoup.
Merci.
Tout ce que l'homme fut, de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps et contre ce bourreau. À Grenade aujourd'hui surgit devant le crime, et cette bouche absente et l'orca qui s'est tue, emplissant tout à coup l'univers de silence. Contre les violents tourne la violence. Dieu le fracas que fait un prêtre qu'on tue. Un jour pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, de feuillages au fond. Un jour d'épaule nue, où les gens s'aimeront. Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Ah, je désespérais de mes frères sauvages. Je voyais l'avenir à genoux, la bête triomphante et la pierre sur nous, et le feu des soldats porté sur nos rivages. Quoi, toujours ce serait par atroce marché, un partage incessant que se font de la terre entre ces assassins que craignent les panthères et dont tremble un poignard. Un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au fond, un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront. Comme un oiseau sur la plus haute branche. Quoi, toujours ce serait la guerre, la querelle, des manières de roi et des fronts prosternés, et l'enfant de la femme inutilement né, les blés déchiquetés, toujours des sauterelles. Quoi, les bagues toujours et la chair sous la roue, le massacre toujours justifié d'idoles, au cadavre jeté ce manteau de parole, le paillon pour la bouche et pour la main. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront un jour comme un oiseau sur la plus haute branche.
Ah, ça fait rêver. Un jour d'épaule nue où les gens s'aimeront. Un texte de Louis Aragon mis en musique par Jean Ferrat. Ce chant d'espoir infini et de confiance face au désordre et la barbarie nous est offert par la directrice du Festival de Poésie Voix Vive, Maïté Vallès-Bled. Alors que la guerre cause rage et désespoir, depuis 28 ans, le Festival Voix Vive consacre la poésie comme territoire de paix en Méditerranée. Les plus grands poètes contemporains y déstabilisent le verbe pour libérer la magie des mots. Aventure incroyable que celle de lâcher les poètes dans les rues à 7 durant 9 jours, comparable à une action nocturne pour ouvrir toutes les cages d'un zoo. L'animal poète ne s'apprivoise pas. On rejoint Maïté Vallès-Bled pour en parler. Bonjour Maïté Vallès-Bled, vous êtes la directrice artistique du festival Voix Vive qui se tient du 18 au 26 juillet avec une centaine de poètes qui vont accoster à 7 pour irriguer la ville de moments d'exception. Comment ça se passe ces 9 jours pour se baigner dans la poésie méditerranéenne avec une multitude de propositions quotidiennes?
Eh bien bonjour, bonjour à tous. Le festival réunit comme chaque année des poètes issus de toutes les cultures et de toutes les langues méditerranéennes. Et nous proposons pendant 9 jours des rencontres. Nous avons à peu près 80 rendez-vous par jour qui sont à la fois des lectures, des moments de discussion, d'échange, des lectures poétiques et musicales. Nous avons des contes également. Et tout cela de manière à permettre au public d'avoir un large éventail, de la réalité de la poésie contemporaine, car la poésie aujourd'hui est totalement inscrite dans la vie, dans ce que nous partageons tous, dans la réalité du monde sur tous les plans. Et c'est une poésie qui est dans laquelle chacun peut reconnaître quelque chose de lui, quelque chose d'intime ou quelque chose de collectif, mais en tout cas à travers la parole des poètes, un certain nombre de questionnements que nous partageons tous sont identifiés et sont formulés. Et nous accueillons non plus 100 poètes, car la réalité de la situation de la culture est extrêmement difficile. Nous aurons cette année 79 poètes.
D'accord. Et comment on se prépare au festival? D'ailleurs, est-ce qu'il faut s'y préparer ou simplement venir et se laisser bercer?
Alors, comment il se prépare au niveau du public? Il suffit de réserver ses dates pour être à cette période-là. Et le programme du festival propose plusieurs rencontres à chaque heure, ce qui permet justement au public d'opérer des choix. Moi, je n'ai jamais voulu construire une programmation qui enchaîne une par une les rencontres. Et si le public doit opérer des choix, eh bien, évidemment, il va se renseigner à travers tous les éléments que fournissent le programme sur l'identité des manifestations, sur l'identité des poètes, sur leur poésie. Enfin, tout cela figure dans le programme et il est extrêmement important de procéder de cette manière. Et puis, il y a également, pendant le festival, des plages de rencontres, notamment une qui s'intitule De voix en voix, qui a lieu tous les après-midi et qui dure 2 heures. C'est la seule manifestation qui dure 2 heures, les autres c'est 1 heure, et qui permet cette rencontre de voir tous les poètes qui sont invités au festival. Donc il y a un lieu, un espace où on peut tous les voir si on y va évidemment chaque jour.
Et comment vous procédez au choix des poètes invités?
Ça, c'est un gros travail qui commence dès fin septembre. La programmation du festival démarre à ce moment-là. Il y a une équipe dans le festival, il y a un comité international qui réunit des poètes ou des spécialistes de la poésie dans différents pays de la Méditerranée et qui me permettent d'être au courant de ce qui se passe, de l'actualité poétique dans ces pays, des publications, etc. Et puis de découvrir aussi des poètes, parce qu'on ne connaît jamais tous les poètes dans tous les pays. Donc avec le comité international et avec l'équipe des animateurs du festival, nous croisons comme cela les propositions, les intérêts, la liste des poètes qui sera ensuite arrêtée de manière définitive.
Il y aura combien de nationalités représentées? J'imagine que dans le contexte actuel du bassin méditerranéen, il doit y avoir aussi quelques difficultés pour les faire venir.
Oui, alors il y a évidemment des pays dont il est difficile de faire venir les poètes, mais il y a aussi des poètes qui sont exilés de par la nature, de la réalité de la situation dans d'autres pays européens et qui, eux, peuvent venir. Bon, par exemple, faire venir un poète de Palestine aujourd'hui, on n'aura jamais l'autorisation d'Israël, puisque c'est Israël qui la donne. Mais un poète palestinien qui est exilé dans un autre pays, oui, ça c'est possible.
Le statut de la poésie diffère selon les pays, dans la réception qu'en fait les populations?
Alors, c'est la manière dont la poésie est transmise dans les pays de la Méditerranée orientale, de la Méditerranée africaine. La poésie est ouverte à tous. Il y a une transmission qui n'est pas la même que celle qu'on nous a imposée d'une certaine manière depuis si longtemps en l'Occident, à savoir que en Occident, la transmission de la poésie n'était pas accessible à tous, qu'elle était réservée à une limite, bon, ce qui évidemment n'est pas le cas. Et l'écriture poétique aujourd'hui le montre amplement, et je crois que le public y est très sensible, car nous avons un public de plus en plus nombreux. Nous accueillons près de 75 000 spectateurs pour la poésie durant ce festival.
C'est énorme. On constate aussi une hausse significative des ventes de poésie. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça?
Vous voulez dire des recueils de...
Oui, des recueils, oui.
Parce que après le Covid, depuis deux ans, effectivement, il y a un regain. Alors, je crois que bon, pendant un festival, ben, effectivement, le public découvre évidemment beaucoup de poètes, et la présence d'éditeurs d'un marché du livre sur tout festival de poésie doit être incontournable, car le public va, après avoir écouté des poètes, va sur le marché du livre et cherche des recueils, veut repartir avec des recueils. Donc il y a beaucoup d'activités aussi, beaucoup de lectures qui invitent à la découverte de la poésie. Et puis il y a des éditeurs qui font un travail colossal, qui après avoir édité un livre, ben, ne s'en tiennent pas là, vont organiser un certain nombre de rencontres pour permettre justement d'élargir un public. Donc il y a toutes ces actions cumulées aujourd'hui reçoivent un écho positif.
Alors une des particularités de ce festival, c'est que les poètes sont accompagnés par des comédiens, des musiciens et qui vivent ensemble sur place.
Oui, alors, cette année, le nombre de comédiens, nous avons dû diviser par deux en raison du contexte économique, de la difficulté que connaît la culture et particulièrement la poésie. Mais effectivement, les poètes, lorsqu'ils lisent tous dans leur langue, et lorsqu'il ne s'agit pas du français, ils sont accompagnés d'un comédien, et cette année également de lecteurs, parmi notre équipe d'animateurs, qui simultanément lisent la traduction en français. Et le principe du festival consiste à inviter la totalité des poètes sur toute la durée du festival. C'est-à-dire que pendant une semaine, nous favorisons de la manière la plus large possible les rencontres entre les poètes et le public, les rencontres des poètes entre eux et les rencontres entre les poètes et les éditeurs. Et tout cela crée des choses que nous mesurons souvent par la suite, puisque chaque année, des éditeurs publient des poètes qu'ils ont rencontrés ou découverts au festival. Et il y a comme cela un certain nombre de poètes venant d'autres pays que la France qui sont traduits en français et qui sont découverts par le public.
Alors oui, il faut qu'on précise quand même que le festival est gratuit. Donc on imagine que le bouclage du budget, ce n'est pas une sinécure. Vous êtes soutenu par qui ?
Essentiellement par la ville de Sète, qui nous accompagne vraiment de manière très, très importante, très nécessaire et indispensable, et par le Centre National du Livre. Bon, ce sont nos principaux financeurs. Après, il est très difficile de réunir des partenaires privés, c'est de plus en plus difficile. Ouais. Mais bon, on continue de se battre.
Et vous proposez des concerts aussi, ou je ne sais pas s'il y en a plusieurs cette année, mais qui sont eux payants. Oui.
Les concerts sont tous gratuits, sauf un qui se déroule au Théâtre de la Mer, comme chaque année. Et cette année, ce sera un concert que nous avons nommé concert de soutien au festival, qui réunit trois spectacles. qui aura lieu le 23 juillet au Théâtre de la Mer. Donc, trois spectacles. Un premier avec Michel Arbaz qui chante Prévert. Un second qui est un spectacle performance avec une poète belge, Laurence Vielle, accompagnée de quatre musiciens. Laurence Vielle qui était venue tout récemment à Sète et qui avait réuni un public considérable. Et le troisième spectacle qui conclut cette soirée, c'est Diego Lahonda qui chante Brassin. Et pourquoi concert de soutien? Parce que l'ensemble des artistes nous a proposé des conditions vraiment de soutien, étant donné la situation extrêmement difficile que nous vivons cette année, et j'ai tenu à l'afficher. Voilà.
Alors, il y a quelques années, vous aviez posé la question « Que signifie être poète aujourd'hui ?» Les vagues sont allées et venues, mais depuis, elles demeurent d'actualité.
Oui, être poète aujourd'hui, contrairement à beaucoup de domaines de la création, les poètes, très peu de poètes qui vivent de leur poésie, ou alors ils sont également écrivains, et cela permet de subvenir un certain nombre de choses. Mais être poète aujourd'hui, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, les poètes aujourd'hui sont inscrits au cœur d'une réalité qui est celle du monde aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans le contexte de la poésie de la Renaissance. Vraiment tout ce qui concerne l'être, le contexte géopolitique, la vie tout simplement, est le centre d'intérêt de tous les poètes.
Faut-il parler d'un dialogue possible ou impossible entre les différentes rives de la Méditerranée? Ou d'un dialogue constant, car finalement, il n'y a qu'une seule rive.
Alors, au niveau de la poésie, oui, c'est une chose qui se produit chaque année. Chaque année, depuis la création du festival, et la situation est encore bien pire aujourd'hui, nous avons tout autant un poète palestinien qu'un poète israélien. Nous avons des poètes venus de pays en guerre, dans des situations extrêmement difficiles. Et pendant le festival, les échanges entre eux existent réellement. C'est une chose extrêmement importante.
Maïté Valesblad, merci beaucoup. Donc on vous donne rendez-vous du 18 au 26 juillet pour une escale au festival Voix Vive qui permet de saisir à quel point la Grande Bleue vivifie le monde en mouvement.
Merci à vous.
Cette émission, accompagnée par le groupe Electroclash Black Strobe, formé à Paris par Arnaud Rebottini et le DJ Yvan Smag. Et comme promis, on vous donne un avant-goût de la Biennale des Arts de la Seine en Méditerranée qui se tiendra du 6 au 22 novembre. Juste histoire de vous faire monter l'eau à la bouche. Un événement initié par le CDN de Montpellier et conçu par un ensemble de partenaires culturels à Montpellier et alentour. La Biennale des Arts de la Seine en Méditerranée réunit des équipes artistiques travaillant sur les rives de la Méditerranée. Imaginée comme un lieu de partage des œuvres et de la pensée, la Biennale propose un programme de spectacles, d'ateliers, de rencontres et de lectures mêlant théâtre, danse, musique et écriture contemporaine. Moment idéal pour se faire une idée de la création contemporaine en Méditerranée, sont attendus notamment cette année le dramaturge palestinien Bachar Murkus pour sa création Yes Daddy, l'auteur et comédienne marocaine Kenza Berada, Bouljoul, l'homme au pot, sera le spectacle que vous pourrez voir, Nécropolis, le spectacle choc du chorégraphe israélien Arkady Zaïd, qui donne une identité et une histoire aux disparus de la migration. Le pionnier de la production théâtrale palestinienne François Abou Salem, dans l'ombre des martyrs, une pièce qui n'a jamais été donnée. Et bien d'autres propositions qui vont vivre l'esprit, qui font vivre l'esprit, qui anime cette biennale, sa seule et simple nécessité. Merci Antoine pour la réalisation de cette émission. La Méditerranée n'est pas seulement une mer qui noie et sépare les ennemis. Se pourrait-il que les arts et la poésie lavent de sa pluie tous les affronts? Le portugais Casimiro de Brito répond à la question « L'amour sauvera-t-il le monde ?» par un regard halluciné. Ça dépend de notre position. Il y a des gens qui pensent le passé ou l'avenir, alors que nous avons seulement le moment où nous respirons, ici, maintenant. Ce moment que nous sommes en train de vivre est un chemin.